Chapitre 16. Hypothèse. Oh, toi, etc. Les poètes. Ainsi, renoncer à Miss Alicia, poursuivit le Révalde, et prendre congé d'elle sur le champ, j'allais m'y résoudre, quand une inquiétude me donna soudainement à hésiter. Lorsqu'Alicia cessait de parler, son visage, ne recevant plus l'ombre que projetaient sur lui ses plates et déshonnêtes paroles, son marbre, resté divin, démentait le langage évanoui. Avec une personne très belle, mais de perfection ordinaire, je n'eusse pas éprouvé cette sensation d'inintelligible que me causait Miss Alicia Clary. Dès l'abord, un rien, un éclair, la qualité des lignes, la dureté des cheveux, le grain de la peau, les attaches des extrémités, un mouvement, tout m'eût averti du naturel caché, mille indices insensibles, et j'eusse reconnu son identité avec elle-même. Mais ici, je vous le dis encore, la non-correspondance du physique et de l'intellectuel s'accusait constamment et dans des proportions paradoxales. Sa beauté, je vous l'affirme, c'était l'irréprochable, défiant la plus dissolvante analyse. À l'extérieur, et du front aux pieds, une sorte de Vénus Anadiomède. Au-dedans, une personnalité tout à fait étrangère à ce corps. Imaginez ce semblant de conception réalisée, une déesse bourgeoise. J'en vins donc à penser que toutes les lois physiologiques étaient bouleversées en ce vivant et hybride phénomène, ou que je me trouvais, tout bonnement, en présence d'un être dont la tristesse et l'orgueil avaient atteint quelques degrés suprêmes et qui se dénaturait à bon escient sous le jeu le plus amer, le plus dédaigneux. Bref, il me parut impossible de s'expliquer cette femme sans lui prêter le lyrique sentimentalisme suivant. Le Révalde, s'étant recueilli un instant, continua. Encore toute tremblante de l'offense terrible, affreuse, irréparable qui lui fut faite, elle s'est raidie en ce mépris froid que la première trahison subie verse aux cœurs les plus nobles. Une défiance très sombre, et dont quelques-uns même ne peuvent se guérir, l'induit à déguiser, sous ses dehors, une ironie souveraine, nul ne lui paraissant de nature à concevoir la souveraine qualité de sa mélancolie. Elle s'est dit, « Puisque le goût des seules sensations a détruit, paraît-il, tout auguste sentiment chez ces humains nouveaux, aux faces un peu trop baissées vers la terre et parmi lesquels je me vois confondu pour peu de temps, ce jeune homme, qui me parle de tendresse et de passion divine, doit être pareil aux passants de ce siècle. Certes, il doit penser, comme les autres cœurs environnants, qui, réfugiés dans le seul sensualisme, pour essayer de vivre, croient, en leur abaissement, pouvoir mesurer d'un sarcasme vide toutes les tristesses, n'ayant plus la force d'imaginer qu'il en est, peut-être, de positivement inconsolable. M'aimer, est-ce que l'on m'aime encore? La jeunesse brûle en son sang. Un transport dissiperait son désir. Si je l'écoutais ce soir, il me laisserait demain plus déserte. Non, non. Avant de tenter aussi vite l'espérance, moi, vêtue de deuil encore, qu'au moins ma première expérience, hélas, m'éclaire. Je dois vérifier, d'abord, s'il récite quelque rôle aussi, car je n'entends accorder à personne le droit de sourire du malheur dont souffre tout mon être, ni surtout que mon amant puisse jamais m'en croire oublieuse. Périsse tout désormais, plutôt que cette seule intégrité qui me reste. Je veux être inoubliable en celui qui sera l'élu de ma grandeur humiliée. Non, je ne me livrerai ni dans un baiser, ni dans une parole à ce nouvel étranger avant de m'être assuré que je puis être reçu de celui à qui je me donne. Si ces profondes paroles ne voilent qu'un jeu passager, qu'il les garde avec ses présents, que ma soucieuse indifférence n'accueille que fatiguée de beaucoup trop ingénieuses contraintes. Je veux être aimée comme on n'aime plus, non pas seulement autant que je suis belle, mais autant que je me vois infortunée. Le reste seul est vain. Comme le marbre divin auquel je ressemble, mon seul devoir est de faire ressentir, ah, pour toujours, à ceux qui m'approchent, l'exception que je suis. À l'œuvre donc, soyons ressemblantes à leurs femmes, à celles qu'ils désirent et qu'ils préfèrent, les grossiers passants familiers. qu'aucune lumière natale ne transparaisse en moi, que la nullité médiocre emmielle mes discours. Comédienne, voici la première création. Noue ton masque, tu joues pour toi. Si tu es une puissante artiste, ici le triomphe ne sera point la gloire, mais l'amour. Incarne-toi dans ce rôle odieux où la plupart des femmes du siècle acceptent de travestir leur nature sous prétexte que la mode les y oblige. Ce sera l'épreuve. Si, malgré cette indigence d'âme, dont je feindrai la misère sans concession ni pitié, il persiste, quand même, à me vouloir pour amour, ce sera qu'il n'est pas plus digne de moi que tel autre, et que je ne représente, pour sa passion, qu'une somme de plaisir, qu'une ivresse pareille à celle du vin, qu'enfin, il se rirait de ma réalité, s'il pouvait la pressentir. Alors, je lui dirai, « Vous pouvez aller vous unir à celles qui ont perdu tout sentiment d'un autre destin. Adieu. » S'il veut, au contraire, m'abandonner, sans même tenter ma possession, s'il s'éloigne désespéré, lui aussi, mais sans avoir même l'idée de profaner le rêve que je lui aurais pour jamais inspiré, alors, à ce signe, je reconnaîtrai qu'il est de mon pays. Je verrai cette chose imprécise, qui est la seule sérieuse entre les choses, passer dans ses yeux où trembleront des larmes saintes. Je constaterai qu'il mérite toute ma tendresse, et peu d'instants alors suffiront, ah, pour nous rendre les cieux. Maintenant, si l'épreuve me démontre, en lui, le mensonge redouté, si je me vois condamné à la solitude, eh bien, la solitude plutôt. Et déjà, je me sens ressuscité à des appels plus augustes que ceux des sens et du cœur. Je ne veux plus être trahi. L'art seul efface et délivre. Renonçant donc au soi-disant réel attachement de la terre, je me survivrai, sans regret, en ces êtres immortellement imaginaires que crée le génie, et je les animerai de mon chant mystérieux. Ce seront mes seules compagnes, mes seules amies, mes uniques sœurs. Et comme pour la Mariam Ali Brand, il se trouvera bien quelque grand poète pour immortaliser ma forme, ma voix, mon âme et ma cendre. Ainsi, je cacherai ma mélancolie dans la lumière et je m'en irai dans ces régions de l'idéal où l'insulte des humains n'atteint plus. « Peste !» dit Edison. « Oui, » reprit Lorévalde, « tel fut l'impossible secret dont, pour m'expliquer cette femme, j'essayais de la parer. Vous pensez que, pour m'en sembler digne, il faut qu'elle soit d'une beauté bien prodigieuse, bien étourdissante, n'est-ce pas ? Vraiment, mon cher lord, vous me faites comprendre qu'un lord peut s'appeler Biron, répondit Edison en souriant. Et il faut que vous soyez bien rude à la désillusion pour avoir eu recours à toute cette impraticable poésie plutôt que d'admettre la banale réalité. Voyons, ne sont-ce pas là les raisonnements de grands opéras ? Quelle femme pourrait jamais les concevoir, à part quelques derniers êtres mystiques ? On ne s'élève ainsi le tempérament que pour un dieu ? Mon cher et subtil confident, j'ai reconnu trop tard qu'en effet, ce sphinx n'avait pas d'énigme. Je suis un rêveur puni. Mais, dit Edison, comment en êtes-vous encore à l'amour pour elle, l'ayant à ce point analysée ? Ah, parce que le réveil n'entraîne pas toujours l'oubli du rêve, et que l'homme s'enchaîne avec sa propre imagination, répondit amèrement Lorévalde. Voici ce qui s'est passé. Pénétrés de la foi dont j'entourais ainsi mon amour, elle et moi, nous nous sommes vite appartenus. Que d'évidence, alors, il a fallu pour me prouver que la comédienne ne jouait pas de comédie. Le jour où je le reconnus sans détour, je voulus encore m'affranchir de ce fantôme. Mais je dois l'avouer, les liens de la beauté sont forts et sombres. J'ignorais leur intrinsèque pouvoir lorsque, dupe de ma chimère, je m'aventurais dans cette passion. Les siens étaient entrés déjà en mes chairs comme des lacets de tortionnaire, quand, désillusionné à jamais, je voulus les secouer. Je me suis réveillé, un peu comme Gulliver à Lilliput, chargé d'un million de fils. Alors, je me sentis perdu. En mes sens, brûlé de l'étreinte d'Alicia, mon énergie s'était affaiblie. Dalila m'avait coupé les cheveux pendant le sommeil. Je pactisais par lassitude. Plutôt que d'abandonner courageusement le corps, je voilais l'âme. Je devins muet. Jamais elle ne s'est doutée des transports de véritable rage que je dompte et refoule dans mes veines à son sujet. Que de fois j'ai failli la détruire et moi-même ensuite. Une concession défendue, un mirage, m'ont donc asservi à cette merveilleuse forme morte. Hélas, Miss Alicia ne représente plus, aujourd'hui, pour moi, que l'habitude d'une présence, et j'atteste Dieu que la posséder me serait impossible. » À ces mots, à l'éclair qui passa dans les yeux du jeune homme sur cette dernière parole, Edison eut comme un mystérieux sursaut. Néanmoins, il se tut. Ainsi, conclut Lord Evald, elle et moi, nous existons, ensemble et séparés à la fois.